Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 84 pour le 8 janvier 2011, l'hypothèse du cerveau mourant. Nous allons dans cet épisode discuter des expériences des morts imminentes et tout particulièrement de la recherche menée par Pim van Nommel et collaborateurs aux Pays-Bas, en Hollande, et contre-argumenter la position qu'il défend dans sa publication qu'il a fait dans la prestigieuse revue de Lancet. Avant de discuter de cela, j'aimerais dire un mot à propos d'un livre que j'ai reçu récemment qui s'appelle The Myth of Free Will, donc le mythe du libre arbitre. Et j'ai reçu ce livre gratuitement dans le cadre d'une opération promotionnelle réalisée par le Center for Naturalism. Donc le Center for Naturalism est une organisation américaine qui a été fondée par Tom Clark, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Encountering Naturalism, A Worldview and Its Use, Rencontrer le naturalisme, une vision du monde et ses usages. Cette organisation a pour objet la promotion du naturalisme philosophique. Ce livre, The Myth of Free Will, consiste en un florilège de textes courts, donc quelques pages, et de citations de philosophes, scientifiques ou encore de sceptiques à propos du libre arbitre. On y retrouve en vrac Suzanne Blackmore, Ginger Campbell, Tom Clark, Francis Crick, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Albert Einstein, Sam Harris, P.Z. Myers, Steven Pinker, Michael Shermer, Baruch Spinoza, Mark Twain et bien d'autres. Oui, l'ouvrage se veut une introduction à l'idée que le libre arbitre n'existe pas, qui est la position à laquelle j'adhère personnellement. Je l'ai malheureusement trouvé dans l'ensemble quelque peu confus. Comme il est composé uniquement d'extraits de textes qui ont été publiés dans d'autres livres, Chris Evatt a juste retiré une page ou l'autre pour un auteur, par exemple. Elle prend Richard Dawkins, elle prend un de ses livres, et à un moment, il parle du libre arbitre. Elle a retiré cette page en dehors du contexte et l'a mise dans ce livre aussi. Donc, c'est une compilation de courts textes et de citations, mais c'est un peu confus. Alors, finalement, l'ensemble est relativement superficiel. Il ne rentre pas en détail. Par exemple, bon, évidemment, on nous dit que la science nous apprend que la conscience est un produit dérivé de l'activité cérébrale. Hein. Comme le dit très bien Steven Pinker, « The mind is what the brain does », donc la conscience est ce que le cerveau fait. Bref, les discussions sont finalement assez superficielles. Mon impression, c'est que pour le lecteur véritablement intéressé par le sujet, le livre ne va pas suffisamment dans le détail pour être vraiment intéressant. Mais à l'inverse, pour un lecteur qui n'a véritablement jamais abordé ce sujet, le contenu peut être me semble trop difficile d'abord. Personnellement, je pouvais comprendre ce qu'il se disait parce que je suis déjà très familiarisé avec le sujet. Je ne sais pas comment quelqu'un qui découvre le débat autour de l'existence ou de l'inexistence du libre-arbitre peut donner du sens à tout ce qu'il lit dans cet ouvrage. Bref, au final, The Myth of Free Will, Revised and Expanded Edition, me semble plus être une sorte de liste d'auteurs qui remettent en question la croyance dans le libre-arbitre. Et finalement, c'est une sorte d'amuse-gueule avant d'autres lectures plus sérieuses sur le sujet. Je pense par exemple que Encountering Naturalism de Tom Clark est certainement bien meilleur que celui-ci. C'est un peu le problème de tous les amuse-gueules. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou vous pouvez sauter directement à des lectures plus sérieuses sur le sujet? Enfin voilà, je voulais vous en dire un mot vu que j'ai reçu gratuitement cet ouvrage. J'étais très content. Et que ça, de la part du Center for Naturalism qui en plus me l'a envoyé au Japon. Donc super, merci à eux. Et je pense que c'est important que cette organisation existe pour faire la promotion du naturalisme philosophique. Et c'est ma façon de les remercier de m'avoir envoyé ce livre. Ok, discutons donc de l'étude de Pim van Lommel et collaborateurs. Donc l'étude en question a été publiée dans The Lancet et elle s'intitule Near-Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest, a Prospective Study in the Netherlands. Expérience de mort imminente chez les survivants d'un arrêt cardiaque, une étude prospective aux Pays-Bas. Et les auteurs sont donc Pim van Lommel, Ruud van Wees, Vincent Meyers et Ingrid Eifery. Effectivement, c'est un article qui est, comme il a été publié dans le Lancet, qui est largement cité dans la littérature, et particulièrement comme l'auteur, donc, enfin, je vais souvent retomber sur Pim van Lommel en solo, mais retenez que quand je parle de Pim van Lommel, ici, je parle de Pim van Lommel et collaborateur, mais enfin, donc Pim van Lommel, qui est l'auteur principal, défend ce qu'on appelle en parapsychologie l'hypothèse survivaliste, c'est-à-dire qu'il pense que les expériences de mort imminente prouve l'existence que du. Enfin, j'hésite à utiliser le terme, mais prouve l'existence de l'âme, mettons en tout cas que la conscience peut exister indépendamment de l'activité cérébrale. Donc, ce qu'on appelle l'hypothèse survivaliste. Et aussi que les expériences de la mort imminente sont authentiques dans le sens où les gens ont une vision de l'après-vie. Pour vraiment établir bien les choses au départ de ces distinctions, soulignons que bien évidemment, aucun sceptique sérieux ne prétend que les expériences de mort imminente n'existent pas. Il est clair que les expériences de mort imminente existent dans le sens où des gens rapportent avoir vécu ce type d'expérience inhabituelle. La question, c'est comment on explique ces expériences. Alors, je vais me baser sur un article qui a été publié dans le magazine The Skeptic, qui est le magazine des sceptiques britanniques. Et c'était dans le volume 21. Numéro 2, et j'ai oublié la page, attendez une seconde. Page 8 à 16. Et c'est un article de Jason J. Braithwaite que j'ai vraiment trouvé excellent. Et donc je vais présenter un peu son argumentation dans cet épisode. Commençons par le commencement. Selon le consensus dominant en neuropsychologie, la conscience est une propriété émergente du cerveau humain en action. Oui, ça c'est quelque chose qui est toujours très frappant, c'est-à-dire que le consensus est que la conscience est ce que le cerveau fait. Et c'est lié à de nombreuses et très 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 nombreuses recherches en neuropsychologie. C'est seulement quand on va du côté de la parapsychologie que soudainement on tombe sur des recherches qui vont dans le sens contraire, qui vont à l'inverse de ce consensus dominant. Et donc Pim van Lommel et collaborateurs argumentent que leurs résultats vont dans le sens que nous devrions, donc leurs résultats à propos de la recherche sur les EMI, vont dans le sens que nous devrions radicalement changer notre conception de la relation entre cerveau et conscience. En fait, comme le dit Alex Tsakiris sur le Balado Skeptico, on devrait, selon lui, voir arriver bientôt un changement paradigmatique du matérialisme vers le dualisme. Changement paradigmatique qui est appelé non seulement par les parapsychologues, mais aussi de manière très intrigante par les tenants du dessin intelligent. Mais c'est une autre histoire. Donc, Jason J. Braithwaite souligne que la recherche de Pim van Lommel est une contribution intéressante à la littérature, mais le problème ne se situe pas tant dans leur méthodologie, elle ne se situe pas dans leur méthodologie, mais dans l'interprétation des résultats qu'ils font et les conclusions qu'ils en tirent. En effet, Pim van Lommel conclut que nous avons maintenant besoin d'une nouvelle approche de la conscience que l'on peut caractériser comme étant un néo-dualisme, que l'on peut définir comme étant le fait que la conscience ne serait pas ce que le cerveau réalise, produit et est indépendante dans une certaine mesure de celui-ci. Donc, globalement, on peut voir dans la littérature sur les EMI qu'il y a une opposition entre ce qu'on appelle l'hypothèse survivaliste, ce que je viens d'expliquer. La conscience pourrait survivre à la mort du corps par rapport à l'hypothèse du cerveau mourant, qui est l'hypothèse des sceptiques. Le cerveau en train de mourir générerait les expériences de mort imminente. Donc les tenants de l'hypothèse survivaliste en parapsychologie vont essayer de contre-argumenter contre l'idée du cerveau mourant. Alors dans l'hypothèse du cerveau mourant, on entend souvent parler de l'anoxie cérébrale. Alors, l'anoxie cérébrale, c'est le manque d'oxygène au cerveau qui est dû à un arrêt cardiaque. L'anoxie, enfin, si on prend une version simpliste de l'hypothèse du cerveau mourant, l'anoxie cérébrale serait tout simplement la cause. Donc le manque d'oxygène au cerveau causerait l'expérience de mort imminente. Pim van Lommel argumente que si l'anorexie était un élément réellement crucial, alors la majorité des patients auraient dû avoir une EMI. Or, dans son échantillon, il a 344 patients dont qu'il a interviewé dans sa recherche. Or, seulement 18% rapportent avoir une EMI. Donc, comme selon lui, l'intégralité de son échantillon aurait dû avoir une anoxie cérébrale, mais seulement 18% rapportent une EMI, une expérience de mort imminente, donc l'EMI ne peut pas être causée par l'anoxie cérébrale, ce qu'il fallait démontrer. Pas si vite. Tout d'abord, l'étude de Van Lommel ne propose aucune mesure directe de l'anoxie cérébrale, ni s'il y a une anoxie ou non, et encore moins à quel degré d'anoxie on se situe. Il se base uniquement sur des inférences via les réponses aux questionnaires et les informations médicales concernant la nature et la durée de l'arrêt cardiaque. Donc comme l'argument de base de Pim van Lommel est l'idée que tous les patients auraient eu des anoxies cérébrales et non seulement auraient eu des anoxies cérébrales mais à des degrés similaires, cependant ils n'ont qu'une preuve directe pour soutenir cette affirmation. Point suivant, Suzanne Blackmore, qui a défendu donc l'hypothèse du cerveau mourant, The Dying Brain Hypothesis, dans son ouvrage Dying to Live et d'autres publications, elle y affirme clairement donc, dans ses publications que c'est le début de l'anoxie cérébrale qui est important et pas le niveau total. Ce qui est important, c'est si le début de l'anoxie est trop rapide, alors les patients sombrent dans l'inconscience et il n'y aura aucune expérience consciente qui se produira. Il faut en fait un début progressif de l'anoxie et c'est le point important. Et ce n'est pas donc si on a un degré élevé d'anoxie qu'on aura une EMI particulièrement importante. Non, c'est au moment du début de l'anoxie si ce début se fait de manière soudain ou de manière progressive. Elle explique de plus que un niveau intermédiaire d'anoxie serait le meilleur pour avoir une EMI et pas le niveau maximum. Or, ce point échappe complètement à Pim van Lommel. Comment expliquer donc ce 18% par rapport à l'ensemble de l'échantillon? C'est donc de ça que nous discutons pour le moment. Tout d'abord, ils ne savent pas exactement quel degré d'anoxie les patients dans l'échantillon avaient. De plus, les différentes expériences peuvent avoir été produites par l'anoxie avait eu un départ soudain ou un départ progressif. Ça peut générer donc l'absence d'expérience ou des expériences différentes chez les sujets. Et enfin, la différence interindividuelle entre les cerveaux explique aussi pourquoi un même degré d'anoxie chez les sujets peuvent générer des expériences différentes. On a tous des cerveaux différents, et donc, même si on a le même seuil d'anoxie cérébrale au moment de l'arrêt cardiaque, on va tous vivre une expérience différente. Et donc, ces différents facteurs, ces différents points peuvent expliquer pourquoi on n'aurait que 18% de l'échantillon qui rapporterait une expérience de mort imminente. En plus, ce qui est vraiment marrant, je trouve intéressant, c'est que Jason J. Braithwaite retourne l'argument. Il nous dit, il retourne l'argument vers les tenants de l'hypothèse survivaliste et il dit, est-ce que l'hypothèse survivaliste pourrait rendre compte de ce 18%? Ouais, j'adore, c'est un excellent point en fait, parce que l'hypothèse survivaliste, c'est dire, oh, bon, on n'arrive pas à rendre compte de l'hypothèse du cerveau mourant, on n'arrive pas à expliquer toutes les caractéristiques des expériences imminentes. Bon, vous remarquerez d'emblée qu'on est dans l'argument classique d'ignorance, hein. On ne sait pas expliquer toutes les observations d'ovnis, donc les ovnis sont d'origine extraterrestre. On ne sait pas expliquer parfaitement tous les mécanismes à l'œuvre dans l'évolution, donc il y a dû avoir une intervention divine à certains moments. Et ici, donc on ne sait pas expliquer parfaitement toutes les caractéristiques des expériences de mort imminente, donc cela soutient l'hypothèse survivaliste. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans la structure classique. On ne sait pas et on conclut quelque chose du fait qu'on ne sait pas. Or, du fait qu'on ne sait pas, par définition, on ne peut pas conclure. Tout ce qu'on pourrait dire à l'heure actuelle de scientifiquement légitime, c'est de dire notre modèle actuel neuropsychologique pour expliquer les expériences de mort imminente est incomplet. Ce que personne ne met en cause, hein. Tous les sceptiques informés se rendent bien compte qu'on ne sait pas encore expliquer toutes les composantes des expériences de mort imminente. Je veux dire, c'est normal, c'est pour ça qu'on fait de la science, n'est-ce pas? Il faut plus de recherche et le modèle va s'affiner avec le cours du temps. Mais alors donc il retourne la question et dit, est-ce que l'hypothèse survivaliste pourrait mieux rendre compte de ces 18%? Parce qu'après tout, si une après-vie existe, pourquoi seulement 18% pourrait avoir un aperçu et pas les autres. Pourquoi est-ce que les 100% des sujets n'ont pas droit, dans l'hypothèse survivaliste, à avoir un aperçu de l'après-vie? Et je trouve ça une excellente question, parce que l'hypothèse survivaliste, c'est un peu comme le dessin intelligent, c'est-à-dire on ne sait pas expliquer cette structure prétendument d'une complexité irréductible, donc un miracle s'est produit à cet endroit-là. Et dans l'hypothèse survivaliste, en parapsychologie, c'est la même chose. On ne sait pas expliquer l'EMI, les EMI dans tous leurs détails, donc à cet endroit-là, un miracle s'est produit. Et on prétend que cette phrase, un miracle s'est produit, explique quoi que ce soit. Mais en fait, par définition, quand on dit un miracle s'est produit, c'est une absence d'explication. Et particulièrement parce que on ne sait rien dire sur la nature de cette miracle. Un miracle peut tout prédire. Un miracle, ça pourrait. Enfin, on peut tout à fait bien spéculer que 100% des gens pourraient avoir l'expérience, ou 18%, ou 24%, ou. Je veux dire, d'un miracle, on ne sait rien en faire d'un point de vue épistémologique. Après ça, dans son article, Jason J. Braithwaite discute de la confiance déplacée de Pim Van Hummel dans les mesures électroencéphalographiques, ou les EEG, électroencéphalogrammes. Donc l'idée qu'on retrouve souvent dans la littérature des tenants de l'hypothèse survivaliste, c'est qu'un EEG plat est équivalent à une inactivité cérébrale totale. S'il n'y a pas d'activité enregistrée par l'EEG, ça veut dire qu'il n'y a juste pas d'activité dans le cerveau. Et donc le cerveau a absolument pas, ne réagit plus du tout. Mais c'est évidemment totalement faux. Pourquoi? Parce que l'EEG mesure l'activité de surface du cortex. Du coup, il est tout à fait envisageable que les profondes structures sous-corticales pourraient être actives en l'absence de toute activité corticale. Donc, en gros, l'EEG enregistre ce qui se passe à la surface du cortex. Du coup, si vous avez de l'activité corticale, ça apparaît sur votre EEG, mais si vous avez une activité qui se produit en dessous, donc dans les zones sous-corticales, ben, votre EEG ne les enregistre pas et il est plat. Donc, pour dire cela autrement, l'EEG ne fournit tout simplement pas une mesure fiable de l'activité neuronale complète. Donc, on ne peut pas conclure d'un EEG plat qu'il n'y a absolument aucune activité dans le cerveau. Pour l'hypothèse du cerveau mourant, l'important n'est pas la présence ou l'absence d'un oxy percé, mais celle de la désinhibition neuronale. Évidemment, la désinhibition neurale peut être provoquée par l'anoxie, mais aussi par des facteurs psychologiques ou neuropsychologiques, tels que la confusion, un trauma, la déprivation sensorielle, la maladie, la pathologie, l'épilepsie, la migraine, l'utilisation de drogue et la stimulation cérébrale. Donc l'anoxie est une voie par laquelle la désinhibition peut se produire, mais ce n'est pas la seule. Et donc l'hypothèse du cerveau mourant prédit que l'EMI, sera plus profonde, plus vivace, s'il y a un plus grand degré de désinhibition neuronale, et c'est ce qu'on observe dans la littérature. Un autre argument que j'adore et qu'il évoque est qui à mon avis, enfin c'est l'erreur logique cruciale des tenants de l'hypothèse survivaliste, c'est que pour que les témoins se souviennent de l'expérience inhabituelle, il faut nécessairement que le souvenir ait été encodé en premier lieu. Donc, il faut que le cerveau ait été suffisamment actif pour que les sujets puissent rapporter le souvenir. Donc, si le cerveau était vraiment totalement sans aucune activité, s'il n'y avait absolument aucune activité cérébrale, le souvenir ne pourrait pas être encodé en mémoire, et donc, au réveil, les gens qui auraient eu une expérience de mort imminente ne pourraient pas se souvenir de ce qu'ils ont vécu. Même si on dit, même si on pense à des faux souvenirs, même des faux souvenirs supposent que le système mémoriel soit intact. Donc, les tenants de l'hypothèse survivaliste argumentent souvent que le cerveau est trop instable pour qu'une hallucination se produise. Mais si le cerveau est trop instable pour une hallucination, comment peut-il l'être pour encoder une expérience mystique en mémoire? Donc ça, c'est vraiment l'erreur logique la plus flagrante dans le discours des tenants de l'hypothèse survivaliste. Ils affirment que le cerveau, qu'il n'y a pas d'activité cérébrale, mais à ce moment-là, ils ne peuvent pas expliquer sans avoir recours à des spéculations spéculatives sur le surnaturel, comment l'expérience peut avoir été encodée en mémoire alors que le système mémoriel est, selon leur dire, ne fonctionne, enfin, est inactif, quoi, ne fonctionne plus. Un autre point dont l'auteur de cet article discute dans les autres malentendus, c'est que beaucoup de composantes des EMI sont similaires à des expériences associées avec des pathologies, maladies, conditions neurologiques, comme par exemple la schizophrénie, l'ostéoscopie, c'est-à-dire les sorties du corps, le syndrome de Charles Bonnet, les auras migraineuses, les auras épileptiques, et aussi donc les stimulations cérébrales directes. Les sceptiques aiment à citer les expériences qui ont été réalisées où des chirurgiens ont réalisé des stimulations cérébrales directes du cerveau et ont généré chez les sujets des expériences similaires à certaines composantes qu'on leur trouve dans des expériences de mort imminente, comme par exemple des sensations de sortir du corps. Alors les tenants de l'hypothèse survivaliste tendent à ignorer les similarités et soulignent les différences. C'est-à-dire qu'ils vont dire, c'est vrai que lors des stimulations cérébrales directes, le chirurgien arrive à produire des choses, ils vont dire vaguement similaires à des EMI, mais n'arrive pas à reproduire les caractéristiques les plus importantes des EMI. Et donc quand vous comparez ça, vous comparez des choses qui ne sont pas réellement comparables. Mais en fait, il faut bien se rendre compte de l'importance du contexte. Le contexte joue un rôle crucial ici, c'est-à-dire que lors des stimulations cérébrales directes, lors de ce type de recherche, le sujet est conscient, il sait ce qui est en train de lui arriver, il est détendu et il est en constante interaction avec le chirurgien et avec le reste de l'équipe. À l'inverse, lors d'une expérience de mort imminente, le sujet est semi-conscient au mieux, il a peut-être un trauma, donc il est blessé, peut-être au cerveau. Il est confus, il est désorienté. Et donc les différences entre les expériences de mort imminente et les expériences de stimulation cérébrale directe proviennent, donc d'après l'auteur de cet article, et je dirais que c'est l'interprétation sceptique classique, de ces différences de contexte. Je veux dire, les tenants de l'hypothèse survivaliste rejettent cela catégoriquement. Mais bon, comme le dit l'auteur de l'article, Jason J. Brainways, cette interprétation est nettement plus plausible, en tout cas, que le dualisme ou que l'idée que la conscience existerait en dehors de l'activité, indépendamment de l'activité cérébrale. De plus, la stimulation dans les expériences de stimulation cérébrale directe, la stimulation est brève, localisée et contrôlée, ce qui est très différent de ce qui se produit lors d'une situation d'un cerveau mourant, c'est-à-dire que le chirurgien cherche à induire une aura et pas une crise massive. Donc, évidemment, on ne peut pas reproduire dans une expérience les conditions de quelqu'un qui est en train de mourir, parce que tout simplement, ben, même si on pouvait le faire techniquement, ça serait non éthique, puisqu'il pourrait avoir des lésions cérébrales, etc. Donc forcément, les expériences de stimulation cérébrale directe ne sont que des approximations, mais qui sont, je trouve, très informatives, quoi qu'en disent les tenants. Ensuite, Pim van Lommel nous dit, je cite, comment est-ce qu'une conscience claire en dehors de son corps peut être vécue à un moment où le cerveau ne fonctionne plus durant une période de mort clinique avec un EEG plat? Oui, là, c'est un point que Alex Tsakiri, sur son balado, martèle sans arrêt. Il nous dit, mais oui, l'expérience est trop vivace, trop claire, trop intense pour être générée par un cerveau en train de mourir. En gros, comme le cerveau est en train de mourir, on devrait avoir une expérience confuse et chaotique. Or, c'est pas ce que rapportent les sujets. Mais avant tout, il faut bien comprendre que, tout d'abord, aucun cas documenté ne prouve que l'expérience se produit exactement au moment précis où l'EEG est plat. Ça, c'est un point crucial que, les tenants ont du mal. Enfin, je sais pas, je suis souvent troublé quand j'écoute, les différents tenants qui ont été interviewés sur le balado Skeptico. J'ai jamais entendu un argument clair sur comment est-ce qu'on pourrait déterminer avec certitude que l'expérience a bien été vécue au moment où l'EEG est plat. Et pourtant, ils ressortent encore et encore que l'expérience se produit bien à ce moment précis exactement. Mais ça, je ne sais pas. L'expérience peut se produire à divers moments. Parce que finalement, forcément, on ne sait que l'expérience s'est produite qu'au moment où les gens se réveillent et racontent l'expérience. Et ça, c'est aussi un autre point extrêmement important, c'est qu'au moment où les gens rapportent, il y a une reconstruction qui est réalisée. C'est-à-dire qu'ils ont vécu quelque chose de chaotique, une expérience chaotique, mais le cerveau commence à créer un narratif. C'est-à-dire qu'au moment du réveil, au moment de la remémoration de l'expérience, quand le sujet est conscient, l'expérience chaotique est restructurée et le narratif pour créer un narratif cohérent. Je pense que j'ai entendu ça particulièrement chez Michael Persinger. Je pense que c'est un argument très important. Je veux dire, il y a certainement une différence entre l'expérience telle qu'elle est vécue par les sujets et telle qu'ils s'en souviennent. Nous avons tous besoin de créer du sens. Le cerveau est capable de créer du sens, donner du sens à une expérience vécue. Et si on a vécu une expérience très chaotique au niveau expérientiel, le cerveau va tenter de créer un narratif autour de celle-ci au moment du témoignage. Et on revient sur la question du témoignage humain et la question des faux souvenirs, etc. Je ne dis pas que les expériences de mort imminente sont des faux souvenirs, même si ça c'est parfois discuté dans la littérature, mais ça ne fait pas qu'il n'y a pas une phase importante de reconstruction ou de construction d'un narratif pour donner de la cohérence et du sens à une expérience qui, au moment où elle était vécue, n'était pas forcément cohérente et claire. Donc, Pim van Lommel présuppose de manière improuvée donc que l'expérience se produit exactement au moment où l'électroencéphalogramme, l'EEG, est plat. Mais c'est non prouvé. De plus, comme l'a déjà expliqué Jason J. Braithwaite, un EEG plat n'est pas équivalent à une inactivité cérébrale complète. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que l'hypothèse du cerveau mourant est loin d'être complète. On ne sait pas tout, mais cela ne fait pas qu'elle soit obsolète, comme le prétend l'étonnant de l'hypothèse survivaliste. Et donc sa conclusion est, oui, il souligne donc que comme les sciences cognitives progressent, on doit s'attendre à des profondes révisions de l'hypothèse du cerveau mourant, mais c'est peu probable que ces révisions seront au bénéfice de l'hypothèse survivaliste. Et ce processus de révision et d'amélioration de l'explication, c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique, c'est l'application de la méthode scientifique. Le problème donc des tenants de l'hypothèse survivaliste, c'est qu'ils présupposent dès le départ ce qu'ils cherchent à prouver, c'est-à-dire qu'ils pensent a priori que la conscience survit à la mort du corps et ils tentent à le prouver. Et je pense que c'est très vrai, souvent ils ont entendu de nombreux témoignages. Enfin, c'est très similaire à l'ufologie, hein. Ils ont entendu de nombreux témoignages par des patients, et ces témoignages les ont convaincus que les expériences de mort imminente étaient réelles dans le sens, étaient authentiquement paranormales, et c'est ce qu'ils cherchent à prouver. C'est des choses que, enfin, j'écoutais encore une fois récemment sur Skeptico une interview de Pim van Lommel, et c'est clairement. C'est noir sur blanc ce qu'il disait, qu'il était convaincu par les nombreux témoignages qu'il avait reçu. Ben, je veux dire, les témoignages, c'est bien joli, mais il faut voir qu'est-ce qui génère ces témoignages. Mais leur conviction est générée par ces témoignages, et après, ils essayent de prouver l'hypothèse survivaliste. qu'ils ont déjà, dont ils ont déjà la conviction a priori. C'est comme les ufologues, ils écoutent des témoignages de témoins. Ces témoignages qui valent ce qu'ils valent, c'est-à-dire pas grand-chose en fonction du témoignage, du manque de fiabilité du témoignage humain, les convaincre que emporte leur adhésion que le phénomène OVNI est bien d'origine extraterrestre. Et après, il déploie beaucoup d'énergie pour essayer de prouver cette hypothèse. Ce qui est un processus très différent de celui que je pense qu'on doit adopter scientifiquement ou en tant que les sceptiques vont adopter. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de preuves robustes, de preuves solides qui tiennent vraiment la route de l'hypothèse survivaliste, on va toujours se rabattre sur des hypothèses matérialistes. Avant d'invoquer du surnaturel, eh ben, on va toujours revenir, pour autant même qu'il soit possible de prouver des hypothèses surnaturelles. Enfin bon, là, c'est de nouveau le problème du dessin intelligent, etc. Et une question épistémologique fort complexe, mais dans lequel je ne vais pas rentrer maintenant. Mais tant qu'il n'y a pas des preuves fortes en faveur de l'hypothèse survivaliste, on va continuer à travailler dans le paradigme matérialiste et pas dans le paradigme dualiste. La conclusion de l'article de Jason J. Braithwaite est que la recherche de Pim van Lommel a été bien réalisée d'une manière méthodologique et est une contribution intéressante au domaine de recherche, donc à la recherche sur les expériences de mort imminente. Mais les interprétations par les auteurs de l'article ne tiennent pas la route. Voilà, je pense que je suis arrivé un peu à la fin de cette présentation. J'espère que vous avez suivi. C'était probablement un peu complexe, pas évident de résumer un article aussi dense et plein de contenu intéressant. Je pense que ça valait la peine, particulièrement parce que Pim van Lommel, comme son article a été publié dans la prestigieuse revue de Lancet, est largement cité dans la littérature, et particulièrement dans la littérature des tenants des hypothèses, dans le des tenants des process, de processus authentiquement paranormaux et des tenants de l'hypothèse survivaliste. Et donc je pense que ça valait la peine que l'on en discute sur le balado en détail. Cette émission, comme c'est une de ces émissions où je discute de parapsychologie en solo, j'aimerais signaler qu'Yves Lignon a réalisé dans le cadre des Clés du Mystère, donc son émission radio, une expérience de parapsychologie dans laquelle il a demandé à ses auditeurs de deviner une carte d'un jeu de cartes classique qu'il avait tiré au hasard, donc de deviner cette carte par voyance ou par perception extrasensoriel. Je pense que c'est intéressant de voir comment il annonce les résultats pour comprendre la vision du monde d'un tenant d'authentiques phénomènes paranormaux. Donc je vais vous passer l'audio où il annonce les résultats de cette expérience. Suspense, suspense.
On va terminer l'émission, Yves, avec le résultat de cette fameuse expérience que vous aviez réalisée sur Sud Radio. C'était le 31 octobre dernier.
Ah,
alors,
oui.
On va rappeler de quoi il s'agissait.
Eh ben, il s'agissait d'essayer de faire un phénomène de voyance de groupe à l'échelle des auditeurs, donc, sur une carte à jouer qui avait été tirée au sort dans le studio dans un jeu de 52. Tenez, Frédéric, si je vous dis comme ça, une carte à jouer dans un jeu de 52. À quoi pensez-vous?
Valet de cœur, par exemple.
Valet de cœur, c'est pas mal, mais la carte à tirer le 31 octobre, c'était 3 de carreau. En tout cas, le fait que vous disiez valet de cœur, vous avez au moins trouvé la couleur.
C'est vrai.
Bon,
c'est
et donc vrai. Toute l'analyse mathématique est basée sur cette idée entre le degré de ressemblance entre les réponses et la carte tirée. Vous voyez, si vous aviez dit valet de pique, ça aurait été moins ressemblant.
Ouais. Là, j'avais du rouge en tête.
Voilà. Si vous aviez dit as de trèfle, ça aurait été encore plus mauvais.
Ouais. Donc là, je m'approchais de la vérité.
Oui. Donc j'ai mis des notes à tous les auditeurs.
qui vous ont contacté, qui
voilà,
ont écrit.
Là, non, il y en a quelques centaines, c'est pour ça que ça a pris du temps. J'ai mis des notes en fonction de la qualité de leurs réponses.
Alors, parmi nos écoliers, qui a la meilleure note?
Non, alors, je vais pas vous dire qui a la meilleure note, parce que c'est assez compliqué. Il y a des logarithmes, je cherche à vous faire peur. Ah, bon, mais après, j'ai calculé la moyenne des notes. Et je savais que si cette moyenne était de 2, avec mon échelle de mesure, eh bien, on pouvait écarter l'hypothèse du hasard. Alors, je vais dire qu'il y a eu un certain frémissement qui fait que je recommencerai peut-être l'expérience un jour. Parce qu'il fallait que la moyenne des notes atteigne 2, et là, j'aurais dit, effectivement, il s'est passé quelque chose de paranormal chez ceux qui nous écoutaient ce dimanche-là. Et on est arrivé à 1,788.
Quasiment donc 1,8.
Ouais, un frémissement.
C'est bon, fou, ah ouais, on n'est pas très loin.
On s'en contente, on recommencera.
Et voilà, le tour est joué. Donc, en fait, il a obtenu des résultats non significatifs avec cette expérience, des résultats qui tombent dans les limites du hasard. Mais est-ce que cela renforce l'hypothèse H0, c'est-à-dire l'hypothèse que le psy n'existe pas ou que la voyance n'existe pas? Non, pas du tout. En fait, il y a eu un frémissement là. Yves Lignon a senti une perturbation dans la force. Enfin, c'est toujours le problème de ce que Richard Wiseman appelle la nullification des résultats négatifs. C'est-à-dire que les résultats négatifs ne renforcent pas l'hypothèse que le psy n'existe pas. C'est juste que ce jour-là, le psy, et Dieu seul sait ce que c'est, hein, le X, l'inconnu, l'anomalie ne s'est pas manifestée pour des raisons qu'on ne sait pas non plus. Enfin voilà, je trouve ça assez typique. Je pense que ce que devrait dire Yves Lignon, c'est qu'il a obtenu des résultats négatifs et que son expérience va dans le sens de l'hypothèse que le psy n'existe pas. Mais je ne m'attendais honnêtement pas à ce qu'il dise cela. Un autre point important, c'est qu'il ne dit pas s'il compte publier cette expérience. Et d'ailleurs, il ne mentionne même pas s'il a enregistré cette expérience dans un laboratoire de parapsychologie, parce qu'actuellement, pour éviter donc l'effet tiroir, certains laboratoires demandent aux gens qui réalisent des expériences de les enregistrer à l'avance, de manière à ce que justement les résultats négatifs ne passent pas à la trappe. Mais ici, il n'a absolument aucune mention de tout cela, donc on ne sait pas s'il va mettre ça dans son tiroir. Hein, c'est ça la métaphore de l'effet tiroir. File drawer effect, c'est-à-dire que les résultats négatifs ne sont pas publiés dans la littérature, ou sont nettement moins publiés dans la littérature, parce que les résultats positifs sont plus intéressants, et donc du coup créer l'impression qu'on obtient beaucoup plus de résultats positifs que de résultats négatifs, mais c'est un effet, un biais de publication. Et évidemment, si les expériences qui obtiennent des résultats négatifs ne sont pas publiées dans la littérature, lorsqu'on fait des méta-analyses, ça pose aussi problème. Et c'est pour ça que certains laboratoires demandent d'enregistrer à l'avance, avant de faire l'expérience, qu'on va en réaliser une, de manière à obliger les gens à rapporter même le résultat négatif. Mais évidemment, Yves Lignon ne mentionne rien de tout cela. Et un dernier élément très typique, je trouve, c'est que il a obtenu des résultats négatifs, mais évidemment, l'implication, ce n'est absolument pas qu'il se pourrait que le psy n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est faire plus de recherches. C'est un peu une phrase, voilà. On refera l'expérience. Mais aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné parce que les astres n'étaient pas dans la bonne position, ou bien quelqu'un, quelque part, a prié et a demandé à Dieu d'annuler les résultats. Mais c'est pas grave, ce qu'il faut faire, c'est faire plus d'expériences. En fait, il faut faire plus d'expériences jusqu'au moment où on obtient des résultats positifs. J'ai toujours trouvé cette façon de raisonner assez problématique, ce discours. Ah, on a obtenu des résultats négatifs encore et encore et encore. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de tenter l'expérience. Ça veut juste dire qu'il faut en faire plus, jusqu'au moment où on obtiendra des résultats positifs. Pourquoi ? Bah parce qu'on sait qu'on doit obtenir des résultats positifs, parce qu'on est convaincu que le psy existe. Donc c'est assez... cette dernière phrase, on refera l'expérience, dans l'espérance que la fois prochaine on obtiendra des résultats positifs, est vraiment aussi très typique. A noter que Chris Carter, qui n'est pas le créateur d'X-Files, un autre Chris Carter qui est un parapsychologue qui a publié un certain nombre d'ouvrages et d'articles, c'est un parapsychologue qui est un tenant des authentiques phénomènes paranormaux. Et non seulement, mais aussi qui est un critique acerbe des sceptiques, je veux dire, il est extrêmement agressif vis-à-vis des sceptiques. Il a publié un article en réponse donc à l'article de Richard Wiseman sur comment les parapsychologues nullifient les résultats négatifs. Donc c'est un article qui s'appelle « Heads I lose, tails you win » or « How Richard Wiseman nullifies positive results and what to do about it, a response to Wiseman's 2010 critique of parapsychology » ou « Comment Richard Wiseman nullifie les résultats positifs et ce qu'on peut faire à ce propos, une réponse aux critiques de Wiseman 2010 à propos de la parapsychologie ». Oui, je signale cet article pour que les gens puissent le lire si ça les intéresse. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que grosso modo, sa réponse à la critique... Donc, Wiseman critique le champ de la parapsychologie en général. Chris Kartex fait une réponse que je considère comme étant de la dominem, c'est-à-dire qu'il attaque Wiseman. Donc, sa réponse aux critiques de Wiseman concernant le domaine de la parapsychologie consiste à attaquer l'intégrité de Richard Wiseman. Et à, bon, en gros, c'est un peu une réponse. Parce qu'il argumente, c'est que Richard Wiseman a nullifié certains de ses résultats positifs. C'est-à-dire que Richard Wiseman, c'est un argument qui revient tout le temps. Richard Wiseman ou Suzanne Blackmore auraient en fait, selon certaines analyses, trouvé des résultats positifs, mais continueraient malgré tout à être sceptiques. Ou n'expliciterait pas de manière claire le fait qu'ils ont aussi obtenu des résultats positifs. Que, enfin bon, je pense qu'il y a du vrai, que c'est certaines critiques qui sont faites à l'encontre de Wiseman et de Blackmore sont légitimes. Personnellement, je pense pas que Wiseman et Blackmore soient c'est des êtres humains comme tout le monde, hein, ils ont aussi fait des erreurs parfois, et que la manière de communiquer leurs résultats, je pense, dans ce domaine est relativement complexe, donc je pense pas que Wiseman et Blackmore soient au-delà de toute critique. Mais ce qui m'a vraiment frappé dans cet article, c'est que Chris Carter complètement passe à côté ne répond absolument pas aux critiques faites par Wiseman sur le domaine de la parapsychologie. Sa réponse en gros, c'est n'écoutez pas ce que raconte Wiseman parce que Wiseman est un sceptique pur et dur. En gros, c'est ça sa réponse. Je suis pas très convaincu par ça. Oui, en plus, en gros, sa réponse est que les sceptiques nullifieraient les résultats positifs, mais je pense que ce qui lui échappe complètement, c'est que, d'un point de vue épistémique, à cause de la plausibilité antérieure, nullifier les résultats positifs, ce n'est pas équivalent à nullifier les résultats négatifs. Parce qu'on s'attend à obtenir de temps en temps des résultats positifs à cause de mauvaises méthodologies ou d'usage non approprié de statistiques ou encore par l'effet expérimentateur psychologique, non pas parapsychologique. Le fait qu'on trouve de temps en temps des résultats positifs n'est pas surprenant. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des résultats négatifs ? Et les résultats négatifs doivent générer le doute quant à l'existence réelle d'un phénomène. Donc, nullifier les résultats négatifs, ce n'est pas du tout équivalent à nullifier les résultats positifs. Or là, c'est ce qu'il prétend. Enfin, c'est un peu dans sa ligne argumentative, quoi. On ne peut pas reprocher aux parapsychologues de nullifier les résultats négatifs parce que les sceptiques nullifient les résultats positifs. L'argument tiendrait si, et seulement si, d'un point de vue épistémique, les résultats négatifs étaient équivalents aux résultats positifs. Mais ce n'est pas le cas. Merci de m'avoir écouté. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement vôtre.
Dizzy and faded from whiskey and wine, this carnival spins inside of my mind on a carousel of ne'er-do-well, you and me and P.T. Barnum. Wanting you nearer than wishing you'd go, accepting deception as part of the show, on a tilted whirl of boy and girl, you and me and P.T. Barnum. Every minute of every day, a sucker's born, that's what they say. But its freak fascination can can't pull away, can't look away from a sequence and sugar and canvas on sticks. The net breaks are full and we all get our kicks in this two-bit show of touch and go, you and me and P.T. Barnum. You and me and P.T. Barnum.